Toujours sur Radio Libertaire, dans Radio Libertaria. Donc là, c'est la deuxième partie de l'émission et donc on va parler du 260 rue des Pyrénées.
Oui, donc on va effectivement... Salah, tu nous rejoins, c'est ça? Pour en parler? D'accord, donc tout de suite Salah. Donc pour en parler avec nous ce soir, donc Mohamed, rebonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux, pour commencer, nous redonner un peu des précisions sur ce qui se passe 260 rue des Pyrénées?
Oui, en fait, nous, c'est les habitants, depuis le vendredi 8 juin, nous sommes installés dans cet immeuble. C'est 260 rue des Pyrénées. Et en fait, les 260 rue des Pyrénées, c'est un ancien centre d'hébergement social dont un immeuble appartient à toi et joie. C'est un bailleur social de la Poste. Et il est vide depuis mai 2010.
Rajouter peut-être juste donc c'est vraiment particulier puisque c'était confié à une association à un moment donné d'hébergement social,
ouais.
Si je suis bien, et que la Poste a demandé à Emmaüs, donc qui gérait cet immeuble, de rendre l'immeuble parce qu'elle la Poste voulait vendre et se faire des sous, quoi. Et finalement a récupéré l'immeuble et n'en a absolument rien fait, et ça c'est depuis 2010, quoi.
Ouais.
Continue. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est, historiquement, l'occupation qui est faite donc au 260 rue des Pyrénées, donc cet immeuble de 7 étages, qui est magnifique, avec une belle vue sur Paris.
Ouais, ça c'est
pour le dire. En fait, le point de départ de tout ça, en fait, même si, on ne va pas non plus remonter trop loin. Mais le point de départ, ça a été donc la manifestation du 17 mars dernier, qui était une manifestation donc, pour le logement et contre les expulsions. Et qui était, historiquement, je pense, un événement dans le sens où c'était une des premières fois que plein de collectifs donc, liés au logement, aux expulsions et à la précarité, en fait, se regroupaient pour manifester ensemble, vraiment. Et surtout... pour qu'il y ait une suite, c'est-à-dire la suite, ça a été une assemblée, une grande assemblée en fait, donc qui se tenait au départ à la CIP et après qui se tenait donc Cité Aubry, donc un des squats donc qui est à Alexandre Dumas, donc qui se tenait tous les dimanches depuis ce moment-là à 17h, où l'idée c'était en gros de faire une grande assemblée qui regroupait tous les collectifs et d'autres soutiens et aussi des personnes en fait qui voulaient
des amis
et l'idée c'était de mettre en place des actions, et donc deux types d'actions, c'était d'abord
les premiers mai,
celle du 1er mai en fait, c'est-à-dire une première tentative d'occupation d'un lieu qui a échoué, mais en fait l'idée c'était, il y avait deux stratégies en fait qui s'associaient. C'était une stratégie d'occupation de lieux réellement, et une stratégie d'interpellation en fait des pouvoirs publics à travers des actions pour faire en sorte que la plupart des personnes en fait qui étaient donc les mal logés qui étaient dans les collectifs ou qui avaient rejoint l'assemblée étaient des demandeurs de logement, donc des mal logés ou des personnes à la rue. Et l'idée c'était de pousser donc à travers des listes présentées donc lors des actions, pour pousser le traitement des dossiers pour que ces personnes aient des vrais logements en fait. Et donc il y a le parallèle entre une forme d'action directe pour occuper des lieux, mais aussi le fait de demander aussi que les demandes de logement soient vraiment prises en compte et menées à bien en fait, quoi. Et donc il y avait les deux, quoi. Et donc depuis les assemblées se réunissent tous les dimanches. Et même depuis l'occupation, ça continue. Et l'idée, c'est, entre guillemets, on lâche rien, c'est dans le sens où, il y a toujours l'idée de continuer à préparer des occupations. Et aussi l'idée de continuer à interpeller les bailleurs, les pouvoirs publics. Donc, il y a eu des actions qui ont déjà été menées. Vas-y.
Ils demandent notre droit, voilà.
Et donc, il y a eu l'occupation de la mairie du 4e. Il y a eu donc l'interpellation de comment elle s'appelle, Madame Duflo, dans son logement, donc lors d'une réunion publique, d'une réunion politique en fait. Il y a à chaque fois, c'est des top. Et il y a eu aussi un demande de rendez-vous avec donc le ministère des Affaires sociales, justement pour faire en sorte que les choses soient entendues. Il y a eu un premier rendez-vous où on nous avait dit qu'en gros que les choses seraient prises en compte. Et il y a eu un deuxième rendez-vous et pour le coup celui-ci a été annulé. Semblerait pour des questions de calendrier électoral, en fait, parce qu'il y avait des choses à régler par rapport législatif. Non, mais je plaisante.
Mais elle ne répond même pas à notre email, parce qu'on voit des emails et tout ça. Elle ne répond pas au téléphone. Et. Alors, c'est, elle est engagée déjà lors de son meeting, elle est engagée, je ne sais pas. Donc, j'ai des somatiques de campagne où nous sommes interviewés jeudi 7 juin et à nous donner un rendez-vous normalement. Et là, elle n'a rien.
Ça reste en réponse.
Oui, sans réponse.
En sachant qu'il pourrait. Dis-moi quoi, c'est assez drôle parce qu'à l'époque où la Poste avait récupéré le bâtiment à Emmaüs, il y avait quand même pas mal de tracts des Verts et tout ça qui disaient que c'était pas bien. Ouais. Ça serait bien qu'ils relisent leurs tracts et voilà.
Et qu'ils mettent en acte leur discours.
En fait, ils sont contre l'expulsion sans relogement pendant dans leur campagne. Ils tenaient les propos du genre pas d'expulsion sans relogement. Et là, bizarrement.
C'est drôle. Ils sont contre.
Ils n'arrivent pas à assumer leur posture.
Leur...
Parce que bon, ils ont de côté, ils n'ont pas le pouvoir non plus, les pauvres.
Mais vous disiez que vous prépariez d'autres occupations, c'est ça? Parce qu'en fait, il y a le 260 rue des Pyrénées, mais du coup, il y a un réseau, où il y a d'autres groupes sur d'autres quartiers, où c'est un bâtiment, un groupe dans ce bâtiment, ou c'est en lien aussi avec d'autres... d'autres occupations.
En fait, c'est toujours l'assemblée, en fait. En fait, l'idée, c'est que l'assemblée, à chaque fois, c'est une assemblée ouverte, en fait. Une assemblée ouverte à tout le monde. L'idée, c'est que ce soit les demandeurs de logement, les mal logés, parce que bon, il y a quand même pas une tentative de diffusion de l'information de cette assemblée, pour dire aux personnes qui sont en difficulté et aux collectifs qui militent, qu'il y a cette possibilité, donc justement, de convergence, de création de l'assemblée, pour justement mettre en place des actions. Et donc, l'idée, c'est à partir de l'assemblée, et peut être décidé par exemple de considérer que par exemple, parce qu'en fait aux assemblées il y a des propositions d'action, mais après voilà, de manière pas directe et pas officielle en tout cas, mais en tout cas l'idée c'est de proposer des actions et par exemple de dire voilà, on va organiser une action à tel moment et ça sera soit une occupation d'un
autre lieu,
voilà, ou ça soit l'idée de d'ouvrir l'autre lieu, mais ça veut dire que tout se passe à partir de l'Assemblée et de commissions qui se regroupent, là pour le coup, sur des choses spécifiques, sur des actions spécifiques qui font que voilà. Et donc pour le coup, voilà, c'est. Et les choses, l'idée en fait, c'est de développer et donc de d'essaimer un peu, en gros, la question des occupations des lieux, à partir du moment où des personnes qui viennent aux assemblées ont envie d'ouvrir un lieu, ils vont se faire aider par des centres qui sont déjà. Donc de l'assemblée, des gens qui sont déjà des squatteurs et des gens qui ont déjà une certaine expérience de l'ouverture, pour se faire aider et former, en fait, les deux à ouvrir à d'autres lieux pour pouvoir habiter, en fait. Et c'est un mouvement qui se met en place, là. C'est vraiment quelque chose, pour ça qu'il y a cette régularité des assemblées le dimanche. C'est l'idée, c'est on continue tout le temps à réfléchir et à, comment dire, et à élaborer des possibilités d'action, en fait.
Alors juste un petit, parce que tu l'as pas dit, tu as dit où elle se passait avant, maintenant elle se passe au 260, voilà. Donc rue des Pyrénées, à 17h, on peut espérer qu'un jour ce sera dans un autre lieu qui sera aussi ouvert, et il y aura plein de lieux comme ça.
Parce que là du coup il faut remarquer, peu importe, non, enfin, je... non, non, rien, Non, je me demandais par combien de personnes il était occupé, en fait, ce lieu. Combien il y a de personnes qui sont, du coup...
Je veux te parler des habitants ou parce qu'en fait, après, c'est...
Il y a que des habitants. On était 26 personnes pour trouver la porte ouverte, voilà. On a installé notre bagage.
D'accord.
Il y a 26 personnes qui habitent. Il y a des familles, des enfants. Et voilà, on vivra au 260 rue de Pyrénées maintenant. On est...
Ce serait intéressant de décrire comme ça un petit peu, quoi, je ne sais pas, mais peut-être les gens, quoi, les profils, même si quoi, voilà, c'est évidemment pas pour réduire les gens à leur profil, mais des gens qui peuvent habiter là, de leur parcours avant, de qu'est-ce qu'ils ont pu vivre avant. Est-ce qu'il y a des différences entre les gens? Enfin, je ne sais pas.
Différences par rapport à...
Je ne sais pas, tu disais qu'il y a des familles, donc il y a des gens qui sont là en famille.
Par rapport aux situations, en fait.
La situation des gens, de qu'est-ce qu'ils ont vécu avant d'arriver là, en fait, ou je ne sais pas quelle était leur situation avant d'arriver.
Bah, les plupart, c'est des gens mal logés, vraiment. Il y a par exemple des mamans qui habitent dans des hôtels sociaux et tout ça, avec 9 mètres carrés, elles ne peuvent pas vivre avec des enfants. Mm. En plus, les prix, c'est presque les mêmes prix qu'un appartement. Mm. 9 mètres carrés à 370 euros, c'est plus les plus paraisons, la RSA et tout ça, c'est elles peuvent pas habiter dans des lieux comme ça. Là, ils espèrent tous, ils viennent tous au 1060 en espérant qu'ils trouvent un autre vraiment une vie.
Bah, limite ce que tu disais tout à l'heure, Mohamed, parler un peu justement des gens qui viennent, en fait, des gens qui viennent et qui tu vois, qui voudraient
Des gens qui viennent, mais il y a entre surtout à partir de la troisième jour quand on a coupé les 160, il y a à peu près entre 60 et 130, 140 personnes qui viennent chaque jour dans les lieux des 160. Et tout le monde, les jours là j'ai dit que tout le monde, ils sont dans la merde, pardon. Tout le monde, ils sont mal logés, sais pas quoi. Et tous, vraiment, ils sont... S'il y a un mal logé ou... Il est... C'est... Ils sont mal... Comment dire?
Vas-y.
Bah...
C'est par rapport à quoi?
Donc c'est des gens qui viennent tous les jours pour demander si c'est possible qu'ils puissent s'installer dans cet endroit-là.
Ouais, c'est exactement. Parce que les plupart, ils travaillent à Paris et si peut-être ils trouvent un petit logement, mais dans le bon lieu, il faut 2 ou 3 heures pour qu'ils viennent et qu'ils réveillent à 5 heures ou je sais pas, à 4 heures du matin pour qu'ils viennent autant à son boulot. Et... En même temps, il y a beaucoup de logements vides depuis 4 ou 5 ans et c'est ça qui... C'est des logements sociaux en même temps. Mm. C'est ça qui est...
Mais ça, c'est hyper important de le dire, parce qu'en fait, c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme, le nombre de logements vides. Parce que c'est vrai qu'il y a toute une propagande terrible concernant le logement qui est sur... Il faut construire, il n'y a pas assez de logements, etc. Et c'est une vraie propagande, parce qu'en fait, la volonté, c'est surtout de faire venir en fait plus de monde et surtout des classes moyennes qui habiteront dans ces constructions-là et qui en plus se densifient toujours et nous fait un paysage urbain catastrophique. Alors que c'est vrai que ça permet surtout aussi effectivement ces constructions de bénéficier à Bouygues et compagnie, c'est-à-dire qu'on a transformé le logement comme tout le reste en marchandises et donc de se faire vraiment énormément d'argent. Et c'est une propagande en plus qui est vraiment tenue par toutes les familles politiques. Personne ne tient un autre discours et elle est terrible parce qu'elle est très opérante en plus au niveau de la population. Il y a des tas de gens qui acceptent d'avoir leur paysage urbain mais complètement bousillé parce que tu comprends, il y a des gens qui ont besoin de logements et donc il faut bien en construire, etc. Alors qu'en fait c'est vrai qu'il y a un nombre de logements et si ça peut se faire aussi, si ces opérations immobilières peuvent se faire, c'est aussi parce qu'il y a la rétention, c'est toujours pareil sur la spéculation et tout ça, et qu'il y a, et y a un nombre de logements vides, mais qui est phénoménal, enfin qui est vraiment pas de l'ordre de l'anodin, de l'anecdotique et quand on sait que dans la majorité des... Dans une grande partie des villes, alors ça doit pas comprendre tout le monde, mais il y a des villes où les demandeurs de logements, je sais pas, c'est ceux en tout cas qui sont inscrits par les municipalités, c'est 6 000, entre 6 000 et 10 000 personnes. Enfin, c'est sûr qu'avec les logements vides, il y aurait largement de quoi loger tous les gens qui sont en demande. Mais donc c'est vrai que c'est un point, je trouve, sur lequel c'est et dans la majorité des villes. Européenne, mais je pense pas seulement, c'est le cas. Enfin, il y a eu un film fait là-dessus qui s'appelle Squat de Christophe Coelho et qui concerne Barcelone. où les gens se mettent aussi à occuper des tas de lieux et à créer des comités de quartier et tout ça. Et il avait donné le nombre aussi de logements vides à Barcelone, mais c'est phénoménal.
Je peux juste ajouter une chose. En fait, c'est véritable business. Toi et Joie participent quand les bailleurs rachètent les immeubles, d'où les loyers augmentent toujours. Par exemple, lors de la vente des immeubles dans la faillite ou de la caisse dépôt, Toi et Joie, groupé avec des autres bailleurs, et a fait immédiatement augmenter les loyers des 20% à Paris. La ville et l'ensemble des bailleurs sociaux produisent un grand nombre de faux logements sociaux des types PLS, c'est-à-dire des logements uniquement accessibles à des gens ayant des revenus compris entre 10 000 et 100 et 3 000 euros pour une personne seule, ce qui exclut plus de 70% des demandeurs sur Paris. Quand il faut d'autres choses pour les vrais pauvres, c'est les projets des Toi et Joie.
Le projet de, pardon ?
Des Toi et Joie, c'est les...
C'est le bailleur.
C'est bailleur.
D'ailleurs, ça pose...
Toi et Joie ?
Toi et Joie, c'est un truc de ouf. Hein.
C'est
un truc de ouf.
C'est ironique.
Mais en plus, c'est des humanistes. Hein. Quand on était, enfin, on a fait une occupation chez eux, quoi. Ils sont humains, quoi. On nous a, limite, on nous a insultés... On disait qu'en gros, on était des méchants, parce qu'en gros, c'était pas eux qui fallait venir voir, quoi. Eux, c'était, on fait dans le social tout le temps, machin. Et ce qui est drôle dans cette histoire d'immeuble, par exemple, l'immeuble qui est occupé, qui appartient à Toi et Joie, ça fait combien de temps qu'il a vu? Ça fait 3 ans, 2 ans, toi. Mais surtout qu'en plus, dans les arguments qu'ils ont mis en avant par rapport au procès qu'ils ont intenté, par rapport donc aux occupants de l'immeuble, c'est qu'il y avait soi-disant une histoire de projet, de foyer, des choses comme ça, alors qu'il n'y a rien du tout. En plus, ils mentent, c'est le pire, quoi. Ils mentent sur des choses, c'est que l'immeuble, quand les gens sont arrivés, était vide, voilà, et que pour le coup, il n'y avait rien de prévu. C'est-à-dire que c'est un immeuble qui a fait quand même 7 étages, il y a combien, 50 chambres?
Il y a 10 chambres par étage.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
50 places, 2 ans, enfin...
Avec des plus. Sanitaires, voilà. Qui ne fonctionnent pas, mais des sanitaires, des salles de bain... Tous les
c'est en bon état. Et
c'est en bon état, c'est viable, il n'y a pas de souci, quoi. Et juste, il n'y avait rien du tout de prévu, quoi. Donc ça aurait pu rester pendant je ne sais pas combien de temps, vide. Et alors que des gens, voilà, la plupart des gens qui habitent, c'est des gens qui sont, voilà, qui étaient à la rue, qui étaient en voie d'expulsion, qui étaient super mal logés, et que là, pour le coup, enfin, ils ont un endroit où habiter et puis vivre, enfin... dans des bonnes conditions, quoi. Et c'est hallucinant le mensonge qu'il y a là-dessus, quoi. Et sur l'histoire des logements vides, sur l'histoire des projets, sur l'histoire de même le scandale des loyers, sur le fait qu'ils font du logement social et qu'ils mélangent tout, qu'ils font du social pour les riches maintenant. C'est magnifique. Donc voilà. C'est ce que je vais te dire.
Mais Toi et Joie ne s'arrête pas là. Nous comptons déporter plainte. Ces bailleurs nous réclament une indemnité mensuelle de 500 euros par habitant par jour. Plus fort encore, ils réclament à la justice de faire payer à ces mêmes habitants une fois le procès rendu. La modique somme des 500 euros, ça veut dire 500 fois 23 personnes, fois 30 jours, ça fait 345 000 euros par mois. La fibre sociale.
Ouais, c'est un truc de ouf.
Bruno, tu voulais intervenir?
Oui, non, c'était par rapport à ce que tu t'évoquais, Manu, sur les logements neufs. Je ne sais pas si vous avez entendu, ce n'est pas hyper intéressant, mais il y avait la déclaration de politique générale du Jean-Marc Ayrault, qui est le Premier ministre aujourd'hui, et qui a annoncé la création de 500 000 logements, la construction de 500 000 logements par an, et que l'État allait donner gracieusement les terrains qu'il possédait dans des communes, et on peut supposer qu'il allait donner ces terrains à des bailleurs et à des Bouygues et consorts pour construire des logements et pour après pouvoir les louer à des locataires comme Mohamed vient de l'évoquer. Donc effectivement, ça, voilà, on continue là-dessus. et Cécile Duflo, et pas Anne Duflo, je crois, qui a été évoquée tout à l'heure, partie par ce gouvernement-là. Effectivement, les engagements qu'elle a pris vont dans le sens du gouvernement avec lequel elle est aujourd'hui, et pas dans ce qui a été dit dans les tracts qui ont été évoqués avant qu'elle soit ministre.
Merci Bruno pour ce.
Je n'ai pas aidé à relancer le débat, je suis désolé. Mais en tout cas, c'était pour, voilà, par rapport à cette construction, effectivement, et avec, alors je ne sais pas trop comment c'est dit, mais effectivement, il y a l'idée qu'il y aura une part de ces logements sociaux pour les plus pauvres, mais c'est assez clair que la plupart seront pour plutôt des classes moyennes.
Ouais, et il y a quelque chose aussi sur lequel j'aimerais bien rebondir. Bon, il y a déjà clairement cette question des logements sociaux type HLM, enfin, qui sont réservés à des personnes qui ont des grands revenus. Et puis il y a aussi, tout à l'heure, Mohamed, tu l'évoquais, la question de l'hébergement d'urgence et des hôtels sociaux et de ce qu'on propose de ce qu'on propose quand on propose quelque chose aux gens qui est des conditions de vie terribles, avec quand même une certaine budgétisation où on en parlait dimanche, c'est-à-dire que on donnerait directement ces sous aux personnes, elles pourraient, quoi. Et on accepterait de leur louer un logement, elles pourraient s'en sortir bien mieux.
Les doigts dans le nez.
Mais où on laisse les personnes dans, quoi, c'est toute la théorie du less eligibility, quoi, on laisse des personnes dans des situations précaires, parce que quand on est pauvre, eh bien, faut bien souffrir quand même, et que du coup on les met constamment dans une situation où elles peuvent, quoi, où surtout elles ne peuvent pas être bien, surtout elles ne peuvent pas habiter, tout ça. Et c'est le cas des hôtels sociaux, par exemple, qui coûtent extrêmement cher, quoi. C'est toujours important de le redire, mais voilà, où ça coûte très cher aux collectivités territoriales et aux financeurs. Les chambres sont très chères, c'est plus cher qu'un logement. Mais bah voilà, c'est toute une famille dans une seule chambre qui doit partir à des moments, qui doit revenir à d'autres, qui peut pas faire la cuisine, ou qui peut faire la cuisine que dans des conditions vraiment mauvaises, qui se sent mal et redevable en permanence. Donc voilà, quoi.
Et du coup, l'occupation de 160 rue des Pyrénées, justement... se positionne par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est un lieu aussi pour habiter.
Pour habiter. Et en même temps, on demande qu'ils aillent pour l'organisation, pour les plupart des collectifs, pour aider les gens, qu'ils emplissent des confiances avec les promesses, que ça ne sert à rien du tout. Une personne, il ne peut pas vivre avec une promesse. Il vit dans la rue, comment il peut vivre avec une promesse? Ça fait un ou deux ou trois ou même cinq ans qu'il vivra juste avec une promesse. Et voilà, il espère qu'un jour, ils vont l'appeler pour lui dire qu'il a un logement. Les gens, ils ne peuvent pas vivre comme ça.
Bah non, mais là, il y a une question de l'ordre du besoin vital, de toute façon, de la nécessité vitale qui se pose et qui alimente cette lutte et d'autres, parce que c'est vrai qu'il y a là plusieurs luttes autour de la question du logement qui commence un peu à... je ne sais pas si vous voulez toucher un mot du CREA ou pas, mais de ce qui se passe à Toulouse ou ailleurs, mais c'est vrai que c'est, je pense là, la question du logement, elle est centrale, je pense, pour le capitalisme actuellement, c'est-à-dire que le capitalisme se jette... un corps perdu, effectivement, depuis quelques années, sur la pierre, comme on dit, et du coup, effectivement, beaucoup de populations sont... pour trouver des lieux à habiter, parce que c'est vrai que là, on est en général dans la plus majorité des villes sur des projets essentiellement libéraux, donc où on fait du fric, on vire les plus pauvres, on loge les classes moyennes, mais après, donc, du coup, les plus pauvres, est-ce qu'ils s'installent? Enfin, on est dans une espèce de... c'est vrai que cette question-là, je pense, est assez centrale dans le système capitaliste et dans les résistances ou les luttes actuelles, quoi. Enfin, c'est vraiment... de toute façon, il y a des tas de gens qui, aujourd'hui, d'ailleurs, des tas, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, parce est-ce que c'est possible aussi, mais qui quittent les capitales pour aller vivre, retourner éventuellement à la campagne, et en même temps, est-ce qu'on peut vivre à la campagne où il n'y a plus rien, où tu n'as plus accès à grand-chose, ou enfin, tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai qu'on est dans des situations...
C'est un rayé de la carte, quoi. C'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, c'est des gens à qui on ne propose rien, quoi. Toute une partie de population dont...
Mais sur la question du lien, en fait, c'est que, c'est vrai que enfin, dans les deux cas, entre l'occupation du 1860 et les questions du CREA, c'est tout
simplement. Peut-être faut préciser d'ailleurs.
Le CREA, donc, ça s'appelle le comité de réquisition d'entraide et d'auto-organisation, qui est donc un comité qui s'est créé à Toulouse, dans le cadre justement de la réappropriation de lieux, partant du principe que, en gros, il y a des gens à la rue, il y a des gens qui sont mal logés, il y a des gens qui sont en galère, qu'à un moment, c'était juste hors de question d'attendre quoi que ce soit de l'État, et donc de l'aide ou de la solidarité de l'État, et qu'à un moment, l'idée de prendre les choses en main directement et d'aller faire les choses soi-même, en fait. Clairement, c'est ça. Et que donc, l'idée, c'est qu'ils ont occupé des immeubles à Toulouse. Donc il a commencé, parce qu'en fait il y a eu un parallèle avec le GPS, mais ça je sais pas si on en parlera peut-être. Parce qu'en fait il y a eu le CREA et le GPS, et le GPS c'est plutôt des travailleurs sociaux qui travaillent dans le secteur de l'hébergement, qui voyant les moyens et les budgets alloués à la question de l'hébergement diminuer. Et donc, pour le coup, ça pose un problème de place, en fait, ont décidé de faire les choses eux-mêmes, ne voyant pas les moyens venir, ont décidé eux-mêmes d'occuper un lieu qu'ils ont transformé en lieu d'hébergement. Au départ, c'était squatté, et après, ils ont demandé que ce soit officialisé par l'État, et donc à toucher des subventions, et de fait aussi, parce qu'au départ, c'était donc que du bénévolat et de l'autogestion, il y a eu après des créations de postes de travailleurs sociaux dans ces lieux-là, en fait.
Donc, pour rappeler le contexte aussi, il y avait, mais tout à fait, ça s'ajoute, il y avait toute une campagne de la municipalité à Toulouse très très agressive envers les personnes qui étaient à la rue, quoi. Vraiment, avec plein, on voit toutes les méthodes super intéressantes et ingénieuses qu'ils inventent pour empêcher les personnes de pouvoir rester dans la rue, tous les dispositifs qu'on invente de couper des bandes, mettre des... enfin, tout un tas de choses. Et là, il y avait vraiment, avec des interventions musclées de la BAFSA, avec vraiment la volonté que toutes les personnes à la rue soient dégagées au plus vite du centre-ville, quoi. Et donc avec l'installation des travailleurs sociaux, enfin, qui travaillaient sur ces questions-là, à l'extérieur de la ville, pour qu'ils drainent avec eux la population gênante.
Et donc, en fait, le lien donc, à faire entre le 260 et là, et les CREA en particulier, parce que la différence entre le CREA et le GPS, c'est que le CREA, eux, ne demandent de rien.
C'est quoi le GPS, ça, là ?
Le GPS, c'est groupement...
Pour le travail social,
C'est
pour le travail social.
C'est
pour
travail social, en fait.
Travail social.
Le
défense du travail social, non ? C'est pas ça ?
Le P, je sais pas ce que ça veut dire.
C'est pour le travail.
Ouais, excusez-moi pour la question.
Non, mais c'est pas grave. Et en fait, donc pour le GPS, en fait, il demandait à être officialisé et donc à financer par l'État, et pour le coup, donc voilà, demander quelque chose à l'État. Alors que le CREA, clairement, il disait, nous, c'est juste, on demande rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à négocier.
On prend. On a que ce qu'on prend.
Il n'y a rien à négocier. C'est la seule chose qu'il demandait, c'est laissez-nous là. Et donc là, ils sont en procès, je ne me rappelle plus exactement les détails. Ils ont été en procès au début juin. Et là, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je crois qu'ils sont expulsables.
Ouais, ils sont expulsables.
Depuis peu.
Mais le CREA a ouvert aussi plusieurs lieux, quoi. Du coup, a fait plusieurs réquisitions.
Ah, c'est ça, le 29 juin, le procès qui a été rendu. Et donc, en fait, ils sont expulsables depuis. Et donc par rapport aux 260, c'est le même principe. Le principe, ça a été clairement à travers l'Assemblée, que les gens s'organisent, en fait, soit à travers des collectifs ou même des gens qui venaient de manière individuelle, pour justement prendre les choses en main et faire ce qu'il fallait à faire pour faire avancer les choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au deux niveaux, que ce soit au niveau direct et au niveau indirect, sur le fait de faire en sorte que la question des attributions de logement avance concrètement et pas, comme disait Mohamed, des promesses, toujours des promesses. À chaque fois dans les tracts, c'est pas des promesses, on veut des logements. Voilà. Et donc le lien, il est là dans la question, de l'action directe, et ici dans la question de comment sont organisées la vie aussi sur place, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de faire le plus possible appel à l'autogestion, même si, comme toujours, l'autogestion, ça se décrète pas, et que c'est des choses qui sont compliquées. Et je sais pas si Mohamed, tu peux parler un peu de la vie de comment ça se passe en fait à l'intérieur. Donc, ce qui est compliqué en fait dans le sens, voilà, les choses, tu vois, par exemple, le fait que les gens doivent agir en fait, tu vois, faire les choses, ce qui est compliqué pour que les gens s'investissent en fait. C'est clair ma question ou...
Non, c'est pas.
C'est vrai qu'il y a un élément moi que je trouve peut-être particulier, et peut-être je vais pas dire nouveau, mais en tout cas différent dans le CREA et dans ce qui est fait par le 260, quoi, par cet AG qui a entre autres, on peut espérer, ouvert le 260, c'est que du coup il y a quand même un mélange de population, de collectifs, de gens qui se fréquentaient pas forcément. Voilà, on connaissait les squats, on va dire un peu communautaires, quoi, de gens qui pouvaient venir par exemple du même pays et qui allaient ouvrir un squat collectif. Les squats dans les milieux militants, mais qui réunissaient des gens qui allaient avoir une action militante commune et s'être rencontrés avant d'ouvrir le squat et tout ça. Et là, c'est des gens qui du coup vont vivre ensemble, mais qui n'ont pas forcément ces liens-là au départ.
Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a un différent kiltir, c'est-à-dire qu'il vient beaucoup du pays, c'est-à-dire que c'est pas le même pays et tout ça, mais on a juste les seules choses qu'on a. On a la même chose, c'est trouver un logement. On a le même problème, tous. Et c'est ça qui nous fait un loi dans le bâtiment. On dirait qu'on se connaît, ça fait un petit moment. C'est vrai. Hein. Bah, tout le monde, il espère vraiment son aide, tous ensemble. Il fait des choses, mais c'est incroyable, vraiment. On fait les gardes ensemble. Il y a des enfants, on dirait que c'est notre frère ou notre fils ou quelque. C'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est une protection ensemble, mais sans faire des détails, voilà. Et on vivra, voilà. On vivra avec.
Ah, mais ça tient. Ouais. C'est vrai que c'est une belle ambiance. Hein. Moi, ouais. Franchement, honnêtement.
Mais la vie quotidienne se passe de manière collective dans le
fond, c'est
squat?
Collectif, ouais. En fait, on fait des réunions chaque semaine pour les habitants.
OK.
Et chaque semaine, il y a que des habitants qui. Voilà, on discute, on propose des choses, on prend des décisions, des choses aussi, on vote. Avec les mains, voilà, oui ou non, et même, voilà, même il y a, de temps en temps, il y a des, comment dire, indifférents, des idées, ça veut dire, ouais.
Ah oui, des accords
et tout ça, mais on trouve toujours des solutions, vraiment, on trouve des solutions. Et là, on se tient les meubles pour l'instant.
Un truc qui a été clair dès le départ, en fait, au moment de l'occupation, ça a été dans le cadre des assemblées, c'est qu'à partir du moment où les gens étaient installés, en fait, c'était eux qui décidaient tout. Enfin, tout ce qui concernait, par exemple, le mode de fonctionnement, l'entrée des nouvelles personnes. Des choses comme ça, et donc la gestion de la vie quotidienne, enfin, à un moment, c'était clairement la réunion des habitants qui décidait tout, et qu'après, l'assemblée, elle, qui venait tous les dimanches, c'était en gros, c'est pour la question de la lutte, en fait. Juste la lutte, le mouvement qui était engagé, ouais. Et donc la continuité. Et c'est pour ça que ce que disait tout à l'heure Mohamed, c'est-à-dire qu'en plus de demander, en fait, d'habiter. Et donc d'avoir des lieux pour habiter, l'idée c'est d'avoir aussi des lieux pour s'organiser. Un peu dans le même principe que la CIP en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, la CIP c'était un lieu pour s'organiser, pour pouvoir faire des choses, pour que les collectifs viennent se réunir et tout ça. Et que justement ce lieu, là, le 260, il fait les deux. Il fait un lieu pour habiter pour les gens et un lieu pour accueillir l'assemblée, pour justement continuer à organiser la lutte et en se disant c'est pas fini quoi.
Et c'est très important un lieu pour les. Pour l'organisation, pour le collectif et tout ça, parce que grâce à l'ancien allié, là, on est là, on est au 260. Et là, avec les liés des 260, on va faire des autres, ouvertir des autres liés pour habiter. C'est une chaîne, en fait.
Ouais.
Non, mais c'est... Moi, c'est un peu c'est une conversation qu'on a eue sur la question des centres sociaux et des questions des lieux qui étaient créés par certains mouvements. Et l'idée, justement, c'est de pas de grandir, mais d'essaimer, en fait. Voilà. Il y a un lieu qui se crée. Et l'idée, c'est pas d'accumuler 30 000 personnes dans ce lieu-là et d'en faire un truc où, en gros, ça va. Voilà, à un moment, ça peut partir en sucette. Ouais. C'est, on met en place un mouvement qui permet que, à partir de ce lieu qui est le 260, il y a la possibilité de continuer à faire la même chose dans d'autres endroits, en fait. Exactement. Et que là, l'idée, c'est un mouvement qui se lance et pas juste. Voilà, c'est. Parce que moi, c'est ce que je sens là-dedans, en fait. L'intéressant, c'est ça. C'est. Comment dire. C'est que depuis le début. Depuis les premières assemblées en fait du dimanche, il y a toujours autant de monde. Il y avait du monde pour les actions, il y a eu du monde pour l'occupation, il y a eu du monde pour soutien, et que il y a quelque chose qui se lance justement dans la question de comment on fait pour justement faire que ça dure, que ça tienne, mais aussi que ça, qu'il y ait des possibilités de faire la même chose autre part. Dans le cadre justement des choses qui ont été proposées, c'est-à-dire une formation. Il y a un camarade qui a proposé le vendredi soir de faire une formation pour expliquer comment on ouvre un lieu, quelle stratégie, comment on fait pour repérer, pour machin, pour tu vois, et puis toutes les techniques de voilà comment on fait pour prouver qu'on habite et tout ça, et que ça, il y a des gens qui forment d'autres personnes à le faire en disant ok, vous êtes là, vous êtes démalogés. Vous avez besoin d'habiter quelque part. Moi, je vous propose en gros de créer, de monter une équipe pour aller, trouver un lieu, l'occuper et s'installer dedans. Et ainsi de suite, en fait. Et que moi, je trouve intéressant, c'est ça, c'est que pour le temps, ça tient, en fait. Ça commence, en tout cas. Et que c'est un beau début.
Et toujours, on trouve des portes ouvertes. Enfin, toujours.
Dans tous les sens du terme.
C'est vrai, tout à fait. Vive les portes ouvertes.
Et vous disiez qu'il y avait quand même une procédure, un risque d'expulsion. Ouais.
En fait, il y a eu un procès qui était, première audience, c'était quand la date? Je ne me rappelle plus, Mohamed.
C'est le 23.
La première fois, c'était 23. En gros, il y a eu une première audience qui a été reportée, et la prochaine, c'est pour le coup, c'est le 13 septembre.
C'est le 13 septembre, voilà.
Donc le procès intenté par Toi et Joie. N'importe quoi. Et qui est donc avec ce que disait Mohamed, c'est-à-dire toutes les demandes d'indemnité, c'est-à-dire 500 euros par mois, par personne.
Non,
et
par jour, par.
Il y a les deux en fait. Il y a 500 euros par mois. Enfin, je sais plus. En tout cas, il y a après, il y aura une astreinte. À partir du moment où l'expulsion sera prononcée, à chaque jour de retard, en fait, il y aura 500 euros à verser. Plus 100 euros. Pour rembourser les frais de justice, en fait. Donc, en gros, on va les rembourser eux. Donc, par personne. L'idée, c'est. Voilà, donc, je ne sais pas combien on disait tout à l'heure, mais voilà. C'est... Et donc, la prochaine date de procès, c'est le 13 septembre.
Oui, Bruno.
Oui, il y a eu deux appels de Marie-Christine et Christophe, des chroniques syndicales, qui appelaient ici ainsi.
Salut.
Donc on leur fait un petit coucou. Qui rappelait, enfin, notamment Marie-Christine, que j'ai eu rappelé que le plan Borloo, par rapport et notamment suite aux émeutes, qui ont aussi imposé des choses aux communes sur la destruction des immeubles pour reconstruire d'autres logements, a beaucoup participé aussi à, parce qu'il y avait aussi du fric à récupérer. A beaucoup participé à virer les pauvres, des villes, et notamment elle citait Balzac, qu'on a aussi à Vitry-sur-Seine, qu'on Manit a évoqué déjà sur des émissions ici.
Et puis que je connais bien, parce que j'y travaille.
Voilà. Et il voulait aussi savoir si les prochains rendez-vous, en tout cas, où est-ce qu'on pouvait se rencontrer pour des lieux ouverts avec des. Alors peut-être que ça a été dit pendant que j'étais au téléphone, je ne sais pas. Des prochaines dates de rendez-vous pour se rencontrer. Et avant de relaisser la parole à Mohamed, sur les campagnes, quand Manu t'évoquait le fait que les campagnes étaient aussi désertes, il y a un phénomène inverse qui se passe aussi en Grèce. On est arrivé à un tel point où les villes, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de logement, qu'il y a vraiment des choses qui se reconstruisent dans les campagnes, parce que les gens réinvestissent les campagnes avec des projets collectifs, parce qu'ils n'ont plus le choix, en fait, parce qu'il n'y a vraiment plus rien à attirer de la ville, parce qu'ils n'ont plus un rond. Et du coup, ils réinvestissent avec, c'est pas simple, mais ils se mettent à réinvestir les campagnes. Donc, effectivement, Mohamed, la question, questions, c'est surtout sur les prochaines dates pour que les gens puissent se retrouver.
Bah, on fait des rassemblées tous les dimanches à 17h, au 1068 Pyrénées.
Et ce, même pendant l'été. Tout l'été.
Tout l'été, ouais.
Tous les dimanches.
Tous les 13 septembre.
Tous les dimanches. Depuis.
Tous les dimanches à 17h, au 260 rue des Pyrénées.
Et puis pour le créa, juste, il y a donc c'est du 20 au 29, c'est ça. Donc du 20 au 29 à Toulouse, voilà, le créa.
Le chantier festif.
Il y a un chantier festif, voilà.
Il nous reste juste 5 minutes avant de rendre l'antenne. Je crois que Myriam, tu voulais faire une info, non?
Ah oui, c'était juste une toute petite info très rapide, mais c'était pour dire qu'il y avait les travailleurs sociaux du département du Val-de-Marne qui étaient enfin en lutte, parce qu'on attendait depuis longtemps, parce que leur direction leur ont demandé l'année dernière d'emmener, donc c'est des référents de l'aide sociale à l'enfance, et leur ont demandé l'année dernière, quand il y avait un mineur, quoi, quelqu'un qui se présentait en tant que mineur isolé, donc étranger en fait, puisque en France, je rappelle, logiquement, normalement, les mineurs, tout mineur isolé sur le territoire, donc tout mineur qui n'a pas de parents, est pris en charge, quel que soit son pays d'origine. Et donc là, quand il y avait des enfants qui venaient demander de l'aide aux travailleurs sociaux, il était demandé depuis l'année dernière aux travailleurs sociaux d'aller les emmener, sans leur expliquer pourquoi, faire un test osseux. Et s'il s'avérait, après ce test, que ces gens qui se présentaient comme mineurs étaient majeurs, les travailleurs sociaux étaient censés les emmener directement à la police, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, là, il y a une lutte qui émerge de dénonciation et de refus des travailleurs de participer à ça.
Et donc, si on veut avoir un contact ou des infos
Je sais pas.
Non, donc les travailleurs.
Strikes. Après, ouais. Voilà, ça a été appelé par des syndicats un petit peu lambda, quoi. Enfin, mais bon, ça vaut le coup de le dire quand même qu'il y a une réaction.
Oui, pour les citer, je pense que sur le Conseil général des 94, c'est la FSU et la CGT qui doivent être les syndicats qui sont sur cette lutte.
À moins que vous n'ayez quelque chose donc à rajouter, on vous remercie.
Ben moi, je vous remercie. Et j'ai dit merci à tous les soutiens et tout le collectif des 18e des Mal Logés Sans Frontières. Mes voisins, les arbitrants des 260. Et le collectif des 20e contre les expulsions. Collectif des Evry contre les restructurations.
Bien.
Voilà. Et je vous remercie vraiment beaucoup.